Bonjour, vous êtes bien sur Radio Campus Kikinkou, le magazine de la moto et des motards, tous les dimanches à partir de 11h. Nous sommes le dernier week-end du mois de février et nous recevons notre motarde en or. Bonjour Papate.
Bonjour, bonjour à tous et à toutes.
Alors, le programme aujourd'hui, l'identité motarde, est-ce une réalité ? Le concept de communauté motarde existe-t-il toujours ? Donc toujours, ça veut dire qu'il est déjà existé au moins une fois. Et comment le définir ? Ah, tout un programme, dis donc.
Ah oui, vraiment tout un programme. En fait, nous sommes vraiment très nombreux à être usagers de la route, en deux ou trois roues. Mais cela fait-il de nous vraiment des motards ? Pour répondre à la question, en fait, on a trouvé un conducteur, il faut reconnaître, un peu biaisé, parce qu'il nous... Il correspondait aux valeurs qu'on a envie de défendre. Et donc, en tout premier lieu, on va avoir un invité au téléphone pour nous parler des concentrations mythiques qui durent depuis des décennies maintenant. Et en l'occurrence, ça sera Rudy, président du MC Sémaphore.
D'accord, c'est la 26e manif qui fait...
26e édition.
Concentre à l'ancienne, hivernale quoi.
Voilà, c'est une des dernières hivernales du calendrier.
Avec au milieu des canards, comme dirait la personne que tu vas avoir ensuite au téléphone.
Voilà, Sylvain Pierron. Comme interlocuteur, je le situerai à la charnière entre une génération effectivement qui a démarré la moto en 71, on va dire à peu près, et puis une génération plus jeune. Et oui, Sylvain, qui est, on va dire, écrivain, il est auteur de deux romans, et deux témoignages plutôt.
Dont Enfourche tes rêves, où justement il va à cette concentre et il décrit avec beaucoup d'humour, comme dans tous ses bouquins, la façon dont il trouve et comment il est accueilli d'ailleurs.
Oui, tout à fait, avec un phrasé toujours très imagé. Et donc, il restitue l'ambiance de la concentre, mais aussi il pose les questions, en fin de compte, qui sont effectivement qu'est-ce que être motard et existe-t-il, une communauté que lui aimerait appeler motardie ?
On va pouvoir lui poser la question tout à l'heure. On a aussi un autre motard, géographe, pour nous parler de cet esprit, et notamment des concentres, parce que tu as fait des publications là-dessus.
Oh, ben oui, j'ai fait quelques... Voilà, je suis un des rares universitaires en France et dans le monde, tout en termes de géographie, qui parle de moto, parce que je fais de la moto et j'aime bien joindre l'utile à l'agréable dans mes travaux de recherche.
Et tu disais que les collègues motards d'Amérique latine trouvaient ça complètement hallucinant.
Les hivernales, complètement.
Ils sont cinglés, les mecs.
Ils connaissent pas l'hiver là-bas. Donc, j'ai publié un article au Brésil il y a un an ou deux de ça. Ouais.
Je me souviens. Nous avons également des invités physiques présents dans les studios, papa.
Oui, mais avant de leur donner la parole, on aura Fanette aussi. Alors qui est à l'autre bout du monde,
et en Australie.
Fanette qui est, on va dire proportionnellement, une motarde d'une génération plus jeune et qui depuis quelques années effectivement s'investit mais de manière intense par rapport à la moto, et on va lui demander si ses valeurs lui parlent à elle. Et donc, effectivement.
Voilà, ensuite nous avons des invités. Donc on a Patrick, le président d'Amitié Motard Waterloosien. C'est ça, Waterloosien ?
Exactement, oui, la ville de Waterloo.
De la ville de Waterloo. Et donc vous organisez un concert ?
On en arrive deux.
Deux concerts, un le 12 mars et un le 13 mars.
Oui.
Avec notre association de Waterloo qui s'appelle Élève ta voix, dont nous avons deux représentantes aujourd'hui ici, Claudine la secrétaire et Marie la vice-présidente. Bonjour les filles.
Bonjour à toutes et à tous.
Voilà, alors pour la petite histoire, Marie d'Élève ta voix a fait The Voice. Elle a fini on va dire dans les 100 à partir de 6000 candidats quand même. Attention, ça rigole plus.
Et donc, je vais profiter d'être au micro pour saluer Philippe. Philippe, que j'ai eu comme contact hein, pour parler de ces événements, qui malheureusement aujourd'hui ne peut pas être présent avec nous. Mais Philippe, on te fait une grosse bise. Philippe est motard aussi, de longue date, un ami de Patrick. Et je pense qu'ils sont vraiment emblématiques de la manière dont ces valeurs motardes, qu'on n'a pas citées, mais dont une est importante, c'est la solidarité. La solidarité trouve à être tournée vers tous. Hein, et là, ça se concrétise dans l'engagement dans des actions sociales et caritatives et festives.
Ouais, parce que là, le cancer, c'est notamment pour récupérer des fonds pour lutter contre le cancer.
On va donner toutes les infos, Patrick nous en parlera de manière très très précise.
On va dire un petit bonjour à Quentin.
Oui.
Quentin, notre explorateur à moto.
Oui.
Bonjour. Qui a changé de casquette aujourd'hui.
Ouais, parce que t'as lu un livre. Une encyclopédie, pardon.
Oui, c'est ça. Écrite en 1926, mais qui parle quand même de moto.
Et tout en anglais.
Tout en anglais.
Mais tu nous le feras en français après, quand même, la présentation du bouquin, s'il te plaît.
Après, t'as oui. comme traducteur.
Voilà, on va finir le tour de table en citant à la technique et à la programmation musicale, monsieur Laurent Rodier. Bonjour, vous êtes bien, rebonjour, vous êtes bien toujours sur Radio Campus Kikinko, le magazine de la moto. Nous retrouvons Rudy, le président du motoclub Sémaphore, qui organise sa 26e concentre, on va dire une hivernale à l'ancienne, les 12 et 13 mars prochains. Rudy, tu es toujours avec nous ?
Oui.
Alors, bonjour. Bonjour, j'ai une question. Pourquoi Sémaphore ? Parce que moi, j'ai regardé hein, quand même dans le dictionnaire. Alors, c'est soit un poste de signalisation côtier pour communiquer avec les navires, soit un signal d'arrêt qui équipe les trains.
Alors... Et un personnage de bande dessinée aussi.
Ah, j'avais
c'est
pas
plutôt ça.
Ah, d'accord.
C'est plutôt ça. Alors, d'accord. C'était pour ne pas... c'était pour ne pas se prendre au sérieux. Parce qu'en fait, je roule depuis 1971 en moto. J'ai passé ma licence en 1971 et le permis en 1973. Et à l'époque, il y avait des clubs qui étaient assez sectaires. Et nous voulions créer une association beaucoup plus large d'esprit, on va dire, pour accepter tout le monde. Et nous est venu, on était dans un club de Soissonnais qui s'appelait l'UMS, l'Union Motocycliste Soissonnaise, qui regroupait différentes structures, notamment le cross et le trial, de grosses structures. Et c'était difficile à assumer. Donc on a créé le Sémaphore en se basant sur cette bande dessinée. D'ailleurs, notre logo de club
est
le chien et, voilà, ouais. Et le sémaphore de cette bande dessinée Cubitus. Voilà.
Quelle culture.
C'était pour ne pas se prendre au sérieux.
Ouais. D'accord.
Pourtant, ça fait 30 ans bientôt que nous existons sous cette bannière. Quoi.
Donc vous faites les choses sérieusement sans vous prendre au sérieux, quoi, du coup.
Exactement, avec beaucoup de convivialité. Alors, nous roulons avec des motos très atypiques, hein, beaucoup d'européennes, Triumph et Guzzi, pour ne pas les citer. Et moi, je roule avec un Vauxhall Café Racer. Voilà, la moto française, depuis maintenant une vingtaine d'années.
J'ose pas dire ton âge, mais rouler sur un café racer Vauxhall, parce qu'il est quand même les bracelets sont quand même vachement, t'es vachement en appui quand même.
Je les ai fait remonter.
D'accord. Oui. Non, parce que c'est physique hein, quand même comme position.
Complètement, mais non, c'est très bien. D'ailleurs, nous sommes deux. Hein. J'ai mon ami François qu'on a une aussi au sein du club et qui ne s'en sert pas tous les jours forcément, mais ça nous donne un cachet supplémentaire quoi.
Vous êtes combien dans le club ?
Nous sommes une quarantaine. Alors, j'ai une quarantaine de personnes, dont notamment des gens qui me suivent depuis le début. Hein, parce qu'on est au journal officiel. On est motoclub au journal officiel, donc associatif, depuis janvier 1994. Voilà. Et depuis cette date, j'ai toujours les mêmes personnes. Enfin, on a créé le club à quatre, mais maintenant, j'ai toujours les mêmes personnes qui sont toujours au sein de l'association. Et actuellement, nous sommes une quarantaine.
Donc, pas forcément des jeunes perdreaux de l'année, quoi, c'est ça ?
Alors, nous avons du mal, justement, à recruter au niveau de la moto, parce que c'est assez onéreux. Et puis, faire des sorties coûte beaucoup, et pour un jeune, forcément, c'est pas toujours l'idéal. Alors, la moto, pour beaucoup, se limite à rester dans une région. Nous, c'est totalement différent. Nous organisons un rassemblement moto international, qui est tous les ans au deuxième week-end de mars. Et à ce rassemblement viennent des gens, par exemple, là, de Bourgogne, de Bretagne, et notamment de l'étranger. Et ça nous permet de nous rencontrer, de nous voir, et de, pour la plupart, ramener des produits régionaux. Et on passe les soirées restaurer.
À goûter, c'est ça.
Pour le plaisir.
Voilà, exactement.
Et des soirées
alors ça, c'est le vendredi, le samedi et le dimanche. J'ai une remise de coupe. Des coupes qui sont fabriquées par des jeunes de BTS de Saint-Quentin, pour être précis. Et on a une trentaine de coupes chaque année, enfin, lorsqu'on a la possibilité d'organiser, forcément. Hein, là, on a la chance de pouvoir réorganiser, pouvoir distribuer et faire plaisir aux gens qui viennent, quoi. Un maximum de personnes. Voilà.
Rudy, en fait, on a pris connaissance de l'existence du MC Sémaphore, il faut qu'on le reconnaisse, en lisant le livre de Sylvain Pierron à l'époque. Et là, on était très heureux, ça fait deux années, du moins après, avec le Covid, je ne vais pas parler d'années, mais à deux occasions, de voir une affiche circuler. Mais comment se passe la communication ? Parce que, justement, est-ce que c'est par lien entre MC ou est-ce que vous ouvrez sur l'extérieur, comment vous faites ?
on évite d'ouvrir à l'extérieur. En fait, les gens qui viennent nous connaissent depuis longtemps. On appelait ça le bouche à oreille. Oui. Ça fonctionne toujours. Et nous envoyons environ, hein, je n'aurai pas le chiffre exact, mais 200 courriers à peu près aux associations, aux individuels aussi, hein, parce qu'il n'y a pas que des motoclubs. On leur envoie une invitation personnelle. Voilà. Ça nous permet de garder un lien beaucoup, beaucoup plus affectif avec des gens que l'on n'aurait pas par le biais d'Internet, par exemple.
Mais
je ne suis pas hostile à Internet, mais oui, voilà.
D'accord, mais par contre, c'est ouvert à tous. Si quelqu'un veut s'inscrire avant le 1er mars, il n'y a pas de,
complètement,
de problème.
Complètement. Oui, on a des gens, des élus de communes qui viennent, on a des amis qui nous aident, parce qu'il n'y a pas que des motards, qui nous aident, parce qu'une organisation comme cela, il nous faut à peu près une trentaine de personnes, surtout. Et donc, une trentaine de personnes, ce n'est pas trop évident à trouver. Nous, on a la chance d'être nombreux et d'être motivés. Mais c'est ouvert à tout le monde. Ramenez un repas, quelque chose, votre bonne humeur, votre savoir-vivre, et puis ça se passera très bien. Voilà.
Ouais, moi, il y a un truc qui m'interroge quand même dans votre politique de communication. Bon, je comprends bien qu'on s'entre à l'ancienne, on veut se retrouver entre potes, des gens qui se connaissent bien. Mais comme tu le soulignais tout à l'heure, vous n'êtes pas des perdreaux de l'année, comme nous non plus d'ailleurs. Hein, la moyenne d'âge des motards français, c'est plus de 50 ans aujourd'hui ou pas loin.
J'en ai 67 pour être précis.
Voilà. Donc t'en as 10 de plus que moi. Voilà.
Oui.
Est-ce que c'est pas finalement quand même s'enfermer dans une logique de non-perpétuation, parce que personne n'est éternel, hein, malheureusement. Est-ce que c'est, voilà, moi, je trouve ça un peu dommage de ne pas communiquer par des moyens modernes pour attirer, pour attirer les plus jeunes vers ce type de manifestation. Alors, je ne dis pas les gamins de 20-25 ans, mais peut-être attirer les trentenaires, les quarantenaires, qui sont de moins en moins nombreux à faire de la moto, qui sont de moins en moins nombreux à participer à ce type de manifestation. Voilà, ça m'inquiète un petit peu. Je veux pas être méchant, hein, mais ce repli sur soi. Pour moi, la moto, c'est l'ouverture aux autres, comme tu le disais très justement, hein, tout à l'heure. Et si vous aviez créé cette manifestation, c'est parce que justement vous trouviez qu'il y avait un tas de consentes qui étaient très sectaires. Et finalement, moi, j'ai quand même un peu peur qu'on se retrouve au fur et à mesure dans des consentes. Attention, moi, je vais être un peu dur, des consentes de vieux.
Alors, je suis totalement en désaccord avec vous, mais ça,
mais t'as le droit,
on a le droit d'avoir sa pensée. Je pense que lorsqu'on organise ce type de manifestation où il y a beaucoup d'alcool, on veut dire, ce qui est.
C'est vrai.
Même si les gens restent sur place, parce que les gens campent, hein, lorsqu'ils arrivent chez nous, ils plantent la tente, on fait la fête, donc forcément, je veux que dans ce genre de manifestation, il n'y ait pas de problème particulier, c'est-à-dire que les gens qui viennent, on les connaît. Mmh. Ou si on ne les connaît pas, parce qu'il y a des nouveaux dans chaque organisation, ce sont des gens qui sont au préalable mis en place par des motoclubs, bien souvent. Et les motoclubs ont la responsabilité de ces gens-là, de leur comportement, je veux dire. Mmh. Parce que lorsqu'on organise quelque chose où il y a plusieurs centaines de personnes, on va dire, on ne veut pas prendre de risques.
C'est tout à fait. C'est tout à fait légitime. Voilà. Ouais.
C'est tout à fait. Bah, surtout à l'heure actuelle où il y a tellement de documents à fournir pour pouvoir organiser, c'est vraiment compliqué de nos jours, hein, avoir les accords des préfectures et compagnie. Si l'on arrivait un jour à avoir un problème particulier, on ne l'a jamais eu, mais on ne le souhaite pas. On pourrait avoir après le retour, quoi, le retour de bâton en disant que ces gens-là ne savent pas organiser ou ont laissé faire. C'est pour ça qu'il y aura une sécurité à l'entrée.
Ouais,
mais
toute façon,
tous les gens qui veulent accéder au rassemblement sont les bienvenus et il n'y a aucun souci particulier.
Ouais, parce qu'il faudra montrer le pass sanitaire déjà à l'entrée, c'est ça, hein ?
Déjà à l'entrée. Ça, c'est prévu par la loi actuelle. Hein. Mmh. Mais il y aura une sécurité à l'entrée pour justement qu'il n'y ait pas de soucis. Il n'y en aura pas forcément, mais voilà. Mais toutes les organisations se font de cette façon-là. Hein. Vous allez sur les Grands Prix, vous allez vous allez dans des autres motoclubs, tout le monde agit de la même façon.
Et si on revenait justement sur ce week-end et oui. sur le site, parce que c'est un site particulier, ça se passe sur une base de loisirs qui est vraiment...
Base de loisirs, voilà. Alors à savoir, excusez-moi de vous interrompre, parce qu'on n'a peut-être pas trop de temps, alors je voulais, je remercie les communes de Crouy, qui étaient à côté de Soissons, qui nous prêtent un local où nous pouvons faire des réunions tous les mois sans problème, manger sur place et compagnie. Et puis la commune de Villeneuve-Saint-Germain qui nous prête ce terrain. C'est un vaste terrain avec un étang et la possibilité de planter, je veux dire, une centaine de tentes, et je suis peut-être loin du compte. Et c'est prêté gracieusement par cette municipalité. Et nous pouvons à l'intérieur faire une petite restauration pour les gens qui n'auront pas le nécessaire. Et puis nous fournissons aussi le bois pour que les gens puissent... se réchauffer dans la nuit, quoi. C'est-à-dire, on aura des palettes et du bois pour que les gens puissent se réchauffer. Voilà notre type d'organisation.
Toutes les conditions sont réunies pour que tout le monde passe un excellent week-end. Et
ah, bah complètement, voilà. Oui.
Et donc, en fait, les invitations débordent de la France, parce que qu'il y avait oui. des Allemands, des Belges qui participaient à ce rassemblement.
Oui. Oui, tout à fait. Il y a de nombreux clubs belges, mais ça se comprend parce qu'ils ne sont pas loin de chez nous. Hein. On est à une centaine de kilomètres de la frontière. Mais ce sont des clubs auxquels on a toujours eu des bons rapports. Peut-être pas des clubs qu'on connaît depuis toujours, hein. Parce que là, pour être précis, j'ai plusieurs associations, plusieurs individuels qui viennent que je ne connais pas du tout. Hein. Mais voilà, ça va se passer dans de bonnes conditions et les Belges viennent toujours... en nombre important, on va dire.
Ouais, moi j'ai une petite.
J'ai quelques Allemands aussi qui viennent.
Ouais. Alors oui. Moi j'ai une petite question à te poser parce que c'est une question à la mode, mais c'est une question importante. Bon, les femmes sont assez peu friandes d'hivernal. Hein. On sait qu'elles aiment pas trop le froid. Ceci dit, il y en a quelques-unes qui aiment. Est-ce que vous avez prévu des commodités spécifiques pour les dames, voilà, parce que nous c'est facile, nous on va pisser dans un buisson.
Non mais on demande l'égalité,
Nous on va pisser dans un buisson et ça pose pas de problème, mais voilà.
Un frein en France et c'était une des premières conditions que j'avais mis en place pour une organisation, c'est-à-dire que dans cette salle il y a des douches et il y a des toilettes.
D'accord.
Et ça c'est très important parce que moi qui me déplace quelquefois à l'étranger, en Allemagne notamment, en rassemblement, les Allemands, c'est une des priorités. Des toilettes propres et pour les hommes et pour les dames. Et ce qui n'est pas toujours le cas en France, et malheureusement, ça rebute certaines personnes. Ça peut se comprendre.
C'est bien pour ça que je te posais la question.
Oui.
Donc, c'est le 12 et le 13 mars, hein, la 26e.
Oui, on démarre le 11.
Le 11, dès le vendredi.
On démarre le 11.
Accueil dès le vendredi, oui. Voilà.
Donc, nous avons une cinquantaine de personnes qui arrivent déjà le vendredi soir. Voilà.
Voilà, donc le samedi, il y a le millésime, il y a l'apéro, le repas, le concert. Et le dimanche, il y a le petit-déj, la remise des trophées et le repas.
Voilà.
Voilà. Et
on ne peut rien vous cacher.
Érudit, comme annoncé, oui. Nous allons poursuivre l'émission avec Sylvain Pierron. Et ce qui pourra nous rapporter comme anecdote de ses participations régulières à la concentration du MC Sémaphore répondra aux questions justement sur la transmission, sur ce qu'un jeune peut trouver lors de ces rassemblements. Voilà.
Donc c'est sur la base de loisirs, chemin de Vénizel. À oui. Villeneuve-Saint-Germain.
Voilà.
Et il y a un fléchage qui est assuré à partir de la route nationale 31.
Voilà, exactement.
On peut donner ton numéro de téléphone ?
Ah, sans problème, oui.
Donc 06 75 41 31 39, c'est ça ?
Voilà. Et pour attirer des jeunes, deux minutes. Pour attirer des jeunes, on a ouvert une section deux roues mobilettes.
Ah.
Qui plaît très bien. Hein. On organise depuis 13 ans des semaines mobilettes en France. Et cette année, nous allons dans le pays Qatar. Et ça nous permet d'attirer d'autres personnes au sein de l'association. Voilà.
Est-ce qu'on pourrait en reparler, Rudy, à une autre occasion ? Parce que c'est prévu pour septembre.
Oui. Sans problème.
D'accord, bon, on te rappellera.
Voilà.
On te rappellera pour en parler.
On reste en contact alors. Okay. Un grand merci de, par avance.
Merci Rudy. Voilà.
Et merci pour la participation.
De rien.
Et bon courage pour cette concentration à l'ancienne.
Et puis, vous pouvez venir faire un tour, ce sera avec beaucoup de plaisir.
Ah, bah c'est allez, très gentil. On viendra avec, avec un enregistreur pour pouvoir faire du son.
Okay.
Merci Rudy.
Encore une petite chose.
Oui.
Je remercie les gens de mon motoclub de me supporter depuis aussi longtemps.
On va faire de la pub pour l'émission, alors ils pourront l'entendre.
Tu dois avoir du talent, c'est pour ça. Allez, salut. Salut, président.
Amitié, à bientôt.
Amitié. Au revoir.
Allez, ciao.
I won't tell a soul, even when I get old. Offer me trinkets, wealth, money, I'm not sold. Was the moon landing? I filmed in Lanzarote, I'm told. Tell a soul, even when I get old, and the pavement isn't gold, I'm comfortable, I'm told. I won't tell a soul, even when I get old, yeah, even when I get old. Was the moon landing? I filmed in Lanzarote, I'm told. Watch it on my black and white TV, two channels, not 43. The picture was grainy, not much to see. It's always made me curious, you see. And then the man said, oh, he said, yes, he did. The moon landing, filmed in Lanzarote, I'm told. Was the moon landing? I filmed in Lanzarote. That's what he said.
Donc vous êtes bien sur Radio Campus Kikinko, le magazine de la moto, et on retrouve tout de suite Sylvain Pierron, l'écrivain motard, papate. Écrivain motard ?
Oui, auteur de deux ouvrages. Donc, bonjour Sylvain.
Sylvain ?
Bonjour à vous.
Donc la dernière fois qu'on la dernière fois qu'on s'est vu, tu disais que c'était au Trianon en fait, hein, où on avait fait une soirée.
C'est ça, effectivement, on s'était retrouvé au Trianon, vous m'aviez gentiment invité d'ailleurs à l'époque, c'était une émission qui à l'époque était en direct de mémoire, hein, c'était avant le Covid, mais j'ai parfaitement souvenir de vous rencontrer là-bas, c'était un grand plaisir d'ailleurs de vous revoir.
Et tu dédicaçais ton livre aussi ?
Je venais dédicacer, oui, mon livre de mémoire. Oui, c'est ça. Je venais dédicacer, je crois que c'était la sortie du deuxième livre. Ça devait être Gueule de Biker, qui venait juste de sortir à l'époque. Ouais, c'est ça. Ouais. Tout à fait.
Alors, l'invitation était, de notre part, était totalement intéressée, Sylvain, comme je te l'ai précisé.
Oui. Hein,
puisqu'on a, d'abord, on voulait parler de la concentration du MC Sémaphore. Puis, en disant, mais on en a entendu parler déjà, on a lu des trucs dessus, etc. Pour dire, ah, mais oui, c'était dans Fourche tes rêves. Et donc, on a repris les différents chapitres où tu en parles. Et, et voilà, parce que le thème de l'émission, c'est. Et comment est-on reconnu motard ? Est-ce que c'est par l'appartenance à une communauté motarde ou en défendant des valeurs motardes ou simplement parce que on porte des bottes et un casque
et un aigle dans le dos.
Voilà.
Et un aigle dans le dos. Ouais.
Et donc, dans tes ouvrages, justement, toi, tu reviens sur ces fameuses valeurs motardes que tu veux constitutives d'une communauté qui serait la motardie. Hein, tu décris très bien comment ce que tu as vécu, notamment lors des concentrations du MC Sémaphore, a pu renforcer ce en quoi tu croyais.
Oui, absolument. Alors, déjà, dans un premier temps, j'en parlais il y a 5 minutes. Moi, personnellement, de mon côté, je ne pense pas. Enfin, je pense qu'il y a très sincèrement une communauté motarde, effectivement. Mais vous parliez tout à l'heure, en fait, de savoir s'il y avait une identité motarde. Il y a une communauté motarde sur laquelle, en fait, vous avez pas une identité motarde, mais des communautés, enfin des identités. C'est-à-dire que clairement, pour moi, chaque motard voit la moto, en fait. À sa manière. Il y en a certains qui vont pouvoir, enfin, préférer rouler l'été, d'autres l'hiver. Certains qui vont plus se déplacer avec la moto dans le but de faire des rencontres. Bon, d'autres, ce sera pour le plaisir uniquement en fait de se sentir libre. Bref, j'ai pour moi en fait la conviction que des rassemblements comme le Sémaphore, en tout cas, sont vraiment l'image de ce que je peux appeler vraiment la communauté motarde. Je suis tombé complètement par hasard en fait sur ce club. Ça doit remonter à 2008 mémoire. Ça commence à faire un petit bout maintenant. Et je suis allé pour une première fois voir un petit peu de quoi il s'agissait. Et réellement, j'ai été impressionné par cette vivacité, cette gentillesse, cette communion, on peut appeler ça comme ça, une communion en fait, vraiment les gens, on avait l'impression qu'ils étaient là, connaissaient tous en fait depuis la création de la moto, et j'ai adoré ce concept. C'était la première fois que j'entendais parler d'une hivernale. Je me disais, c'est quoi, c'est complètement barge en fait de dormir dans des toiles de tente en plein, mais enfin tout début du mois de mars de mémoire. Et ça m'a plu. Et du coup, j'y suis revenu l'année suivante avec des copains. Et je crois que j'ai fait en fait ce rassemblement 7-8 ans de suite jusqu'en 2016, puisque j'ai quitté un petit peu la région nord. Donc je suis carrément maintenant dans le sud. Mais j'ai adoré ce concept. Et d'ailleurs, en fait, je croise encore beaucoup de sémaphores dans d'autres rassemblements d'ailleurs. Voilà.
Et ça a été aussi le début d'amitié avec d'autres clubs.
Carrément. Bon, déjà les sémaphores dans un premier temps, en fait, oui, j'ai fait de très très belles rencontres. Et c'est toujours une surprise, en fait, parce que lorsque je vais sur un rassemblement nord, sud, est de la France, il y a toujours un sémaphore, voire deux ou trois, en fait, qu'on retrouve, et c'est toujours une belle surprise. Et forcément, bah du coup, on a des choses à se raconter. Hein, c'est une évidence. Mais à côté de ça, oui, j'ai fait des très très belles rencontres au sémaphore notamment, et c'est comme ça notamment que j'ai eu l'occasion. Alors pour des clubs, en fait, des clubs du nord de la France, bon, je vais parler notamment du MCP Bulldog du côté de Berck, je vais parler en fait des Buzards du côté de Thionville, je vais également parler en fait de certains rassemblements moto en Belgique, parce que beaucoup de nos amis belges en fait nous font le plaisir et l'honneur de passer nous voir également. Donc je parle des Pharaons, je parle des Moduits, en fait, et c'est toutes ces rencontres en fait que j'ai eu l'occasion de faire, les Red Dogs également en fait dans le centre de la France, je les oublie, les pauvres, hein, là ils vont m'en vouloir, mais toutes ces rencontres ont été j'allais dire la preuve que effectivement l'identité motarde elle est aujourd'hui ce qu'elle est, et le concept de la communauté motarde, en fait, en tout cas, est plus en fait qu'un concept, c'est réellement une réalité, en fait.
Est-ce que tu trouves aussi que la population motarde a beaucoup vieilli et qu'il n'y a plus de jeunes?
Oui, je souris parce qu'effectivement je l'ai beaucoup précisé, et par conviction dans mes deux livres, j'étais vraiment arrêté là-dessus sur en tout cas ces dernières années, et j'avouerai qu'effectivement, bon, il y a on a le passif qu'on a, et on a surtout l'histoire de la moto existe réellement, il y a vraiment en fait un historique en fait, hein, qui est lié à ça, et je dirais que au départ on pourrait considérer que la population motarde est vieillissante. Je disais en fait je pense en fait m'être complètement trompé en fait sur le fait que cette identité est en train de se perdre. Elle ne se perd pas, elle évolue avec le temps, et j'ai eu l'occasion avec plaisir de refaire les 1000 vaches cette année, enfin l'année dernière au mois de décembre donc 2021, et j'attendais en fait à voir des vieux croulants comme moi en fait arriver sur place, et finalement, j'ai vu avec plaisir que c'était bourré de jeunes, que c'était bourré de filles également, et c'est un vrai plaisir, parce que et c'était également bourré de gamins en fait en 125. J'ai même vu et ça a été une belle histoire en fait, un gamin de 14 ans qui est venu en fait en scooter avec sa toile de tente, et respect, j'adore ça, c'est vraiment en fait ça prouve qu'effectivement la moto ne meurt pas,
et la relève est assurée. Alors
bah, j'espère pour nous, je le souhaite réellement. Je pense qu'en fait le relève est en train de se mettre en place.
Non, parce que je voulais dire, dans les studios là, il y a Marie qui a 26 ans, qui est là, qui est motarde, et il y a Quentin, t'as quel âge, oui. Quentin
24 ans.
24 ans, tu vois, donc nous aussi on a des jeunes dans les studios.
Eh ben welcome, super. Ben écoutez, moi je suis ravi en fait que justement il y a cette relève qui arrive. C'est affreux en fait de parler de cette manière-là. J'ai l'impression de parler en fait comme si j'étais déjà à moitié enterré. Oh, c'est affreux ça, c'est terrible. Et en même temps c'est normal et c'est génial. Moi j'avoue que on avance vraiment en fait dans le mouvement en fait. Et ce que je dis, la moto évolue. Ce qu'il faudrait pas qu'il évolue, c'est cet esprit en fait que j'aimerais bien le citer quand même, parce que j'ai un vrai plaisir à relire de temps en temps des vieux ouvrages en fait, bon, la génération culbuteur des années 70, et j'ai en fait une profonde admiration quoi, pour des gens comme Patrice Vanoni, le rédacteur en chef de du magazine Moto à l'époque, qui disait clairement, en fait, bon, c'était vraiment à l'époque de la rébellion, hein, les années 70, mais clairement, qui disait que effectivement, voilà, France, ta moto fout le camp. Il disait clairement, hein, je le cite, hein, la moto peut être un grand pied, parce qu'elle réunit des gens autour d'un même refus, celui d'une société par choc contre par choc. Voilà, moi je trouve ça magnifique, des réflexions telles que Patrice Vanoni avait dans les années 70. Il faut qu'on continue en fait à avoir cette vision communautaire, solidaire et fraternelle, quoi.
Formidable.
Merci, on n'a rien à ajouter. Bah non, voilà.
On peut encore trouver tes bouquins. Comment on les trouve, ces bouquins?
Ah oui, oui. On peut les commander directement sur internet, en fait, hein. On les trouve directement en fait sur mon éditeur, hein, mais également en fait on peut directement en fait les commander en fait sur Facebook,
d'accord,
n'importe
okay.
Quoi.
Okay,
ça
okay.
Va beaucoup mieux, hein.
D'accord,
on peut les commander toujours en fait, hein, y a aucun problème,
d'accord, ok, ben je te remercie Sylvain, c'est sympa, et puis à bientôt. Ben,
avec plaisir, hein.
Ok.
Ok, merci encore,
allez, ciao,
salut.
This is no lie. Thought you were a sweet little angel, but you devil in disguise. I say, talk to me, mama. Put this all about. When I came in, who was there? Walk out. When I came in, who was there? Walk out.
Il y a de la musique sympa hein, sur Radio Campus. Bah, c'est normal, c'est Kikinkou, c'est la musique des motards. Eh ouais, hein Yanis, le voyageur.
Ah, le voyageur.
Le chercheur. Le voyageur et le chercheur.
Le géographe.
Chercheur en hivernal. C'est pas un beau métier, ça.
Pas seulement. Moi, mon vrai métier, c'est avant tout d'enseigner la géographie et la géographie du tourisme. D'accord. Et puis, comme je suis motard et que je faisais partie de Kikinkou Tetoupal, un jour m'est venue l'idée de me dire j'associais géographie et motocyclisme. Géographie et moto. Alors j'ai cherché un petit peu sur ce qui s'était déjà fait. Hein. En France, pas grand-chose. On doit être 2-3 géographes à avoir parlé de moto. Voilà. Et puis dans le monde, on doit guère être plus de 5 ou 6. Voilà, sur la bibliographie que j'ai pu réunir. Alors il y a pas mal de sociologues, d'anthropologues qui ont parlé, mais qui ont étudié le motard et la communauté motard.
Ouais, c'est normal, pour un sociologue, voilà. C'est intéressant comme sujet. Okay.
Et moi, comme ma spécialité, c'est la géographie du tourisme. Je dis, moi, je vais parler de géographie du tourisme à moto. Parmi les formes de tourisme à moto, il y a la concentration. Il y a la concentration. Alors un jour, je m'entretenais avec un de nos camarades bien connu dans la région et qui me disait, je lui expliquais ce que je faisais, et puis il me disait, moi quand je vais aux 1000 vaches, quand je vais en concentre, je fais pas de tourisme. Je dis, mais si, c'est une forme de tourisme, comme une autre. Tu fais de la route, tu vas camper, tu vas te peler les miches pendant 3 jours sous ta tente sur le plateau des 1000 vaches, il fait -10. Tu vas sur la route, tu vas au resto. Le dernier soir, avant de rentrer sur l'île, tu vas aller à l'hôtel. C'est une forme de tourisme comme une autre. On ne réalise jamais vraiment. Touriste, c'est un gros touriste. Tourisme,
c'est un gros mot.
C'est un gros mot en France. On dit espèce de touriste. Moi, si mes étudiants me disent espèce de touriste, ça veut dire que je n'ai pas préparé mes cours. Je suis arrivé les mains dans les poches. Et moi, je leur réponds bande de touristes quand ils ont une mauvaise note. Bon, voilà. Donc, dans mes recherches sur le voyage à moto, je me suis dit, tiens, il y a quand même une forme de tourisme encore plus spécifique à la moto, c'est l'hivernal. L'hivernal. Hein, c'est qu'il faut être quand même un peu barjot hein, pour prendre sa bécane par des températures incroyables pour se rendre dans des coins encore plus incroyables où il fait froid ou dans un état de confort. Il faut creuser dans la neige pour mettre ta tente igloo. Tu prends 3 sacs de couchage. Quand tu vas pisser dehors, ça gèle avant de tomber par terre. Je dis, qu'est-ce qui peut motiver ça?
La franche camaraderie, peut-être.
La franche camaraderie. Moi, j'ai trouvé qu'on parlait tout à l'heure de communauté de motards. En effet, je pense que dans le monde de la moto, il y a plusieurs communautés. Tout au moins, il y a plusieurs façons de pratiquer la moto. Il y a plusieurs communautés. Et parmi ces communautés, il y a les accros, les mordus. Parmi les mordus, ça va être, on va les rencontrer chez ces gens qui vont faire des hivernales.
Et c'est l'adversité aussi qui soude
l'adversité,
le groupe.
C'est l'adversité.
Plus c'est dur et plus finalement il y a une cohésion à l'intérieur du groupe.
Exactement. Hein, je pense que d'ailleurs la communauté motarde, elle est née de ça. Hein. Avant les années 50, on achetait une moto, une petite moto, une mobylette pour aller au boulot. Dans les années 60, on a commencé à découvrir la moto plaisir, et les motos étaient pas fiables, hein, et donc
il y avait une entraide motarde.
C'est sûrement à l'origine, une des origines de la création de ces groupes de motards qui sont devenus des motoclubs, et puis qui sont aussi construites contre le modèle préexistant.
Ça, plutôt dans les années 70, quoi.
Dans les années 68. Exactement.
Et le fait que deux motards se croisent et qu'ils font un signe, souvent un V, c'est ça.
Ouais, c'est un V, c'est le signe. Vive la moto, vive nous. On est des frères de la route. Voilà, on est des frères de la route. Voilà, on est solidaires. Et que si tu tombes en panne et que je te croise, je vais m'arrêter et je vais te donner un coup de main si je peux le faire.
C'est une communauté avec un code, un langage.
Voilà. Et alors, ce qui est assez amusant, parce que je suis assez, si je vais avoir, je, vous allez me lancer des pierres. Je suis aussi camping-cariste et chez les camping-caristes, ils se font lever aussi, ce qui m'étonnait beaucoup. Au début, j'ai refusé complètement. Je vois avoir dit c'est comme italien. Et puis bon, allez, petit à petit.
T'étais pas assez vieux encore à l'époque.
T'étais pas encore assez vieux à l'époque. Bon, je suis d'abord motard. Alors pour en revenir aux hivernales, l'origine des hivernales, c'est le début des années 50, le milieu des années 50. Et c'est un phénomène qui est né en Allemagne. La légende voudrait que la première communauté, la première hivernale, ait été organisée par un journaliste motocycliste allemand, Ernst Leverkusen, en 1954. Alors la légende dira que c'était un ancien pilote. Non, pas non. Un ancien nazi. J'ai pas dit un ancien nazi. Un ancien soldat militaire. Allemand.
D'accord.
Il avait l'âge. Il était mobilisé comme tous les jeunes Allemands de son âge. Il était sidecariste. Il a gardé à la fin de la guerre un Zundapp KS600. Et puis, se désolant de voir la petite voiture populaire remplacer peu à peu l'usage de la moto, il s'est dit « Moi, je veux prouver qu'on peut se servir d'une moto par tout temps, quelle que soit la saison. » Et il a organisé avec des copains à lui une première hivernale quasiment dans son jardin en 1954. Il s'était une dizaine. C'est l'origine des éléphants.
Ouais.
Hein, comme le surnommait le fameux Zundapp KS600 qui était utilisé par la Wehrmacht pendant la guerre. Voilà.
Mais c'est une légende, ça.
Ah non, c'est pas une. Alors ça. Ce qui n'est pas une légende.
C'est pas forcément des nostalgiques
non,
de l'armée allemande qui faisait la concentre.
Absolument pas. C'était des motards qui avaient envie de prouver tout simplement que même au cœur de l'hiver, on pouvait se servir de sa moto, quel que soit le temps. Et lui, il habitait dans l'ouest de l'Allemagne, hein, du côté de la forêt, dans le massif de l'Eiffel, pas loin du Nürburgring. Là où se passent les Altes Elephantentreffen, hein, les vieux éléphants. Et le but a été, petit à petit, la concentration a pris de l'importance, a attiré de plus en plus de personnes. Lui, il ne voulait pas forcément que ça devienne... Il voulait que ce soit un truc élitiste. Il ne voulait pas forcément voir des milliers de personnes affluer. Il voulait vraiment que ce soit l'élite de la motardie. Voilà. Donc on s'est mis à rechercher des sites... de plus en plus difficile d'accès, là où on aurait du froid, de la neige, des conditions terribles, pour prouver que, on pouvait atteindre ces endroits et camper et prendre du plaisir avec une moto, même dans des situations dantesques. Hein.
Et cette constante existe toujours.
Cette constante existe toujours. Malheureusement, à cause du Covid, elle a encore été une fois annulée cette année. Hein. C'est traditionnellement au mois de février. C'est une très belle concentration, dont certains disent qu'elle a perdu un peu de son âme. Mais bon, moi, j'y suis allé deux fois. La dernière fois, c'était d'ailleurs avec des membres du club. Là, c'est une belle concentration, sympa. Il y a beaucoup de folklore. Il y a énormément de folklore dans les concentrations.
C'est pour ça qu'on y va aussi. Hein.
Voilà. Hein. Là, on rencontre des Vikings, des mecs avec des casques avec de la fourrure, des cornes,
des bêtes à poils.
Des engins complètement improbables qu'on rencontre jamais ailleurs, des sidecars construits comme des panzers, enfin des trucs hallucinants qu'on pourrait pas voir sur nos routes.
Parce que à part visiter, on va dire, ou échanger avec ce folklore, y a rien à faire là-bas de toute façon. Hein.
On allume un feu de camp.
Voilà,
on campe, on se met avec les...
Et on partage nos produits régionaux.
On partage nos produits régionaux autour d'un feu de camp. Voilà, c'est bon enfant. Comme nous disait tout à l'heure notre interlocuteur, c'est vrai que l'alcool peut couler à flot. Et chez les Allemands, ça coule à flot. Mais attention, il n'y a pas qu'en Allemagne qu'il y a des hivernales. Moi, j'ai recensé 300 hivernales à travers l'Europe. C'est un phénomène exclusivement européen. En Amérique du Nord, le concept d'hivernal n'existe pas. En Amérique du Sud, le concept d'hivernal n'existe pas. C'est vraiment un phénomène européen.
Dans tous les pays d'Europe ?
Dans quasiment tous les pays d'Europe, on va trouver des hivernales en Russie, en Finlande, en Norvège, en Suède. Il y a des hivernales à 300 km à peine au sud du cercle polaire. Si je prends par exemple le Savalon Rally, qui n'a de rallye au sens qu'on a, c'est pas un rallye, c'est une concentre hivernale. Il y a le Crystal Rally.
Il faut être équipé
parce qu'on a des températures qui descendent largement, très très largement en dessous de zéro. Vraiment, et ça fait partie d'ailleurs le Crystal Rally. Il y en a quelques-uns du club.
C'est le Graal.
C'est qu'on a réussi à faire ça. Le Crystal Rally, c'est le Graal. Mais il y en a aussi aussi en Espagne. Hein, y a le rallye des pingouins, par exemple, Pingouinos, bon, qui a changé de nom ces dernières années, bon, qui est évidemment moins difficile que d'aller à 300 bornes du cercle polaire. Bon, en France, j'ai même remarqué ces dernières années une résurgence de la mode de ces hivernales. On a ressuscité des hivernales qui avaient disparu, hein, qui avaient été créées au début des années 70. Et le meilleur exemple, c'est les 1000 vaches.
Bah ouais, tout à fait.
Hein, organisé par le motoclub de Mémac, hein, avec une très très belle ambiance. On en parlait tout à l'heure, Sylvain en parlait tout à l'heure. Là, on retrouve vraiment un esprit... oserais-je dire le mot pur et dur, mais en toute bonne camaraderie. En toute bonne camaraderie. C'est pas dans une hivernale où on va rencontrer dans une estivale, dans une concentration estivale, il va y avoir du burn-out, il y a des gens qui vont se rouler dans la merde.
Les kékés, quoi.
Il y a des kékés qui vont foutre en l'air leur moulin pour les mettre au rupteur pendant des heures. On rencontre jamais ça dans une hivernale. De la viande gay, ouais. C'est vrai.
J'ai quand même vu
en Allemagne des remorques, derrière des sidecars pleines de canettes. Hein, Et il faut faire attention, parce que quand on tombe dans une embuscade avec des Allemands, il faut faire extrêmement attention. L'ami, je s'en souviendra, il est tombé plusieurs fois dans des embuscades. Moi, j'ai toujours réussi à m'esquiver à temps, parce que je supporte pas trop l'alcool. C'est pas que j'ai l'alcool mauvais, mais ça monte vite à la tête. Donc, ça peut être...
C'est pas de l'alcool, c'est de l'antigel, en fait. Là.
C'est de l'antigel, ouais, tout à fait.
Ok, merci pour ton témoignage, Yanis. Mot de conclusion, peut-être ?
Allos hivernales. Voilà.
Vous allez vous cailler les miches, mais rencontrer des purs et durs qui ont vraiment la passion de la moto.
Puis il y a vraiment une excellente. Puis il y a un esprit de solidarité qui est extraordinaire. Puis c'est tellement beau de voir des feux de camp la nuit, comme ça, dans des endroits improbables. Alors il y a deux Elephanten Treffen en Allemagne. Il y a les Altes, qui sont l'héritière directe de celle qui a été créée par Herzheimer Kurz dans les années 50, qui était organisée par la Fédération allemande de motocyclistes, le BBV, enfin, je ne sais plus trop quoi. Et puis il y a une scission au sein du club organisateur, bon, comme ça se trouve souvent. Il y a eu le cas pour les 1000 vaches aussi, qui ont trouvé que ça devenait trop commercial, donc ils organisent ça à Zola, sur la frontière, à la frontière tchèque, dans la forêt bavaroise. Et puis c'est pas les seuls, il y en a plein. Puis il y a de très belles concentrations hivernales en France, en Espagne,
dans les Alpes. On retrouve les principales hivernales dans le calendrier qui tient un coup, d'ailleurs.
Exactement. Alors, pour quand même une petite précision, la plus haute concentration hivernale en Europe et donc du monde, elle est à Saint-Véran, le premier week-end de janvier, à 2400 mètres d'altitude, hein, dans les Hautes-Alpes. Bon, c'est passé. Là, je ne dirais pas qu'ils sont des milliers à y aller. Hein, ils sont tous les ans quelques dizaines. Il vaut mieux être très bien équipé. Et puis, les sidecars sont bienvenus.
Sont plus adaptés.
Ouais, c'est quand même plus adapté, c'est clair.
Ok, merci. On va passer un petit morceau de musique avant de continuer avec nos invités. Et Fanette.
Yeah.
just the same. You don't have to worry, cause taking care of business in his name.
Ça, c'est un deux temps. Trois cylindres deux temps. Tu l'entends bien ? Un RDLC, ouais. Modèle à carbu, par contre. Vous êtes toujours sur Kick un coup, forcément, le magazine de la moto. Hein, on parle moto et on va parler moto avec une voyageuse, une globe-trotteuse, Fanette. Tu es avec nous, Fanette, hein ?
Hello.
Hello.
Comment ça va ?
Ah ouais, c'est vrai que tu parles anglais, maintenant. on peut faire l'interview en français, ça t'embête pas ?
Non, non, ça va.
Donc, Fanette, tu nous as rejoint depuis l'Australie. C'est ça c'est, qui est génial. On t'avait déjà présenté à nos auditeurs quand tu étais en Nouvelle-Zélande. Un petit bonjour aussi d'Australie. Et on te retrouve combien de temps plus tard, Fanette ? Parce que là, ça fait combien de temps que tu es en Australie ?
Alors, ça fait deux ans et demi maintenant que je suis en Australie. Et la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était il y a à peu près 7 mois, 8 mois.
Oh, bah tu vois, j'avais l'impression qu'il y avait plus de temps qui était passé. Mais vu tout ce que tu as pu faire, parce que j'ai été voir un petit peu tout ce que tu mettais comme news, tu n'arrêtes pas. Je veux dire, tu investis à fond tout, c'est la moto en particulier.
ouais, c'est vrai que c'est un petit peu un voyage aussi qui... C'est un peu une quête où j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de découvrir et j'ai envie de progresser. Et du coup, j'essaye. J'essaye un maximum. Et plus j'essaye, ben, plus j'apprends et moins j'ai peur de me planter. Donc, ouais, c'est.
T'as quoi comme moto ?
C'est assez sympa.
T'as quoi comme moto ?
J'ai une. Alors, je voyage depuis 2019 sur une Suzuki DR650. Donc, c'est un peu une sorte de moto. Off-road, road off-road, dual purpose. Donc c'est, je sais pas comment on appelle ça en français, un trail.
Un trail, ouais, trail.
Mmh. Ouais, ouais.
Je me souviens que t'avais traversé voilà. Le désert avec la dernière oui. fois, t'en avais parlé, je crois.
Ouais. On s'était parlé juste après ma traversée du désert avec la 650. Et puis après aussi ma toute première course en dirt bike, en motocross, en 250.
C'est pas trop lourd, hein, il est pas trop lourd ton DR.
Je crois qu'on s'habitue en fait. Moi, je me suis dans mon budget et puis aussi à ma taille parce que je fais 1m63. C'était la seule moto qui convenait pour ce que je voulais faire. Du coup, moi, tant que je peux la relever, elle est pas trop lourde.
Parce que tu la relèves souvent, apparemment.
Bon, non, mais
aujourd'hui. Si, si. Enfin, en fait, aujourd'hui, je suis allée faire de la moto avec des locaux, faire du single trails, donc de la piste, des chemins en fait, vraiment dans le bush, dans la brousse. Et je l'ai fait tomber. Je pense qu'aujourd'hui, je l'ai fait tomber. Je l'ai relevé une bonne dizaine de fois.
Ah bon, écoute, ta réflexion était totalement justifiée, Luc.
Non, mais bon, c'est comme ça qu'on voilà. apprend aussi.
Fanette, tu roulais pas en BM à un moment?
Au début,
quand tu étais en Nouvelle-Zélande. Hein, tu roulais en BM.
Ouais.
Hein.
Nouvelle-Zélande, j'avais une 650 GS. C'est tout ce que j'avais trouvé sur place. Ça reste un petit pays avec pas un très gros marché. Et puis encore une fois, avec mes critères, c'est tout ce que j'avais trouvé sur place. Mmh. Et j'y connaissais rien du tout au monde du adventure bike et de la moto off-road. Du coup, j'avais aucune idée des modèles. J'ai vraiment été sur ce qui semblait être le plus approprié, mais évidemment, c'était pas parfait, hein, la GS. Je me suis quand même cassé la clavicule.
Et là, ça va, tu t'es pas fait mal dans le bush.
Aujourd'hui, non.
T'as rencontré des bushman?
Des bushman? Non, je suis partie avec des bushman dans le bush.
Ah, d'accord.
Mais tu as aussi trouvé les conditions, de très bonnes conditions pour pouvoir continuer justement à apprendre.
Oui, et bah alors du coup c'est voilà, la thématique de la journée un petit peu, la transmission, le partage. Tout ce que je fais, tout ce que j'apprends, ben, c'est forcément avec l'aide d'autres personnes. Et c'est ça qui rend l'expérience encore plus extraordinaire, vraiment, c'est cet échange-là. Comme en ce moment, je vous appelle, enfin, vous m'appelez, je suis hébergée par un motard de 60 ans qui roule en BMW et puis par une de ses amies qui fait aussi de la moto. Et ces gens-là, ils m'apprennent à améliorer ma conduite. Quand la moto tombe en panne, ils m'apprennent à la réparer. C'est comme ça que j'apprends tout ce que...
Mais disons que ça répond en partie à une question que Quentin voulait te poser. Je le laisse te la poser quand même. Moi, j'essaie de l'en dissuader.
Oui, alors bonjour Fenette. juste une petite question.
Bonjour.
Imagine, tu es au beau milieu de l'Australie, il n'y a rien autour. Tu tombes en panne, mais vraiment une panne, tu casses ton moteur. Comment, enfin, explique-moi comment tu fais, comment tu te débrouilles.
Bah, tu pleures déjà. t'invoques ce en quoi tu crois, hein, les étoiles, les kangourous, mais là t'es dans la merde. Hein. Non, mais c'est vite arrivé. En fait, il y a même pas besoin de partir loin en Australie, dans les terres, pour se retrouver dans des situations extrêmement risquées et dangereuses, parce que la plupart de la campagne n'est pas couverte par du réseau. Et puis il y a des routes de 4x4 partout dans tous les coins, et en semaine ou selon la période de l'année, bah en fait, il n'y a personne qui passe.
D'accord.
Donc, c'est une vraie question. Ça m'est arrivé d'avoir quelques pépins, des crevaisons, ce genre de choses. Il n'y a pas longtemps, c'était mon carburateur, j'avais un trou dans le diaphragme. Voilà, ça arrive. C'est un peu...
Et t'as réparé ça comment?
Avec un chewing-gum.
Alors, avec de la glu.
D'accord, ouais.
C'est ce qu'on appelle la bouche mécanique. Tu le fais avec ce que t'as. J'ai poussé la moto, j'ai démonté le carburateur au bord de la route pour le nettoyer. Et puis en fait, il était même pas. C'était pas si dégueulasse que ça. Et du coup, je me suis demandé ce qui se passait. Mais il commençait à faire noir et il pleuvait. Et du coup, ben, j'ai dû pousser la moto jusqu'à la lumière que j'ai vue. J'ai suivi la lumière, la ferme d'à côté. Et puis, il n'y avait personne, en fait. Et j'ai attendu jusqu'à dans la nuit que les fermiers reviennent de leur soirée. Et ils ont cru que j'étais un intrus. Donc, forcément, ils avaient peur de moi. Moi, j'avais pas à l'aise. Et puis, au final, on a réparé tout ça ensemble le lendemain avec de la glu. Donc, ça, c'est comme ça qu'on se débrouille sur la route. Et s'il n'y a vraiment personne, et ben, c'est téléphone satellite. Et moi, ce que je transporte, c'est un géolocalisateur qu'on utilise en mer, les sortes de boussoles de détresse.
D'accord. Bah là, tu viens de répondre en fait à la question que je voulais te poser, si tu avais justement un téléphone par satellite ou autre.
Ouais. Bah oui, parce que ce soit un accident, on est blessé, ou alors, comme tu as demandé tout à l'heure, s'il y a une grosse panne moto qui n'est pas réparable sur place tout seul, comment on fait? Ben, on utilise soit son téléphone satellite, soit on essaye de... En général, on attend la fin de la journée. On ne marche surtout pas quand il fait chaud. Ouais. Parce que la plupart des gens, en fait, meurent de déshydratation avant même de pouvoir être sauvés. Donc, du coup, il y a plein de petits tips comme ça, de petits conseils comme ça pour pas mourir à la première crevaison. Quoi.
D'accord. Et alors, on m'a raconté quelque chose sur l'Australie. C'est vrai qu'il y a de gros, gros animaux sauvages là-bas? De gros animaux vraiment dangereux ou pas?
Ouais, c'est un pays un peu.
Je veux dire, tu t'es jamais fait attaquer par un truc là-bas? T'as peur de dormir
Par un kangourou? Non, quand même pas.
Non, mais des chauves-souris géantes.
Alors,
hein.
le plus gros danger avec la faune sauvage en Australie, c'est la nuit, les animaux qui traversent la route. Donc, à moto. Personne de sain d'esprit roule à moto la nuit. En Australie, c'est complètement suicidaire. Alors évidemment, j'ai eu la mauvaise expérience il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines, de rouler en pleine nuit pour chercher un campement. Et puis en fait, j'ai vu ma vie passer devant moi. En fait, hein. J'ai vu un kangourou et ma vie. Il a fait demi-tour, donc je l'ai tapé avec mon pied droit, avec le cale-pied et puis le protège-engin. Je suis désolée, je ne connais pas du tout le vocabulaire en français. Et j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Donc ça, le premier danger, c'est les kangourous, les wallabies, les autruches, ce qu'on appelle les émeus. Tout ça, ça traverse, ça part dans tous les sens, de jour comme de nuit, donc il faut faire super gaffe, ça crée énormément d'accidents. Après, dans le nord de l'Australie, il y a les crocodiles. Donc là, il ne faut pas planter sa tente trop près de l'eau. Et puis surtout, il ne faut pas aller se baigner, évidemment. Et puis, il faut avoir plein de petites tactiques pour comment aller chercher l'eau dans la rivière, quand on campe, etc. Et surtout les criques aussi, il y a des passages de rivière où il y a des crocodiles. D'accord. Et les gens le font en 4x4, mais à moto, j'ai encore jamais vu. Hein.
Et le crocodile qui attend que tu tombes, c'est que tu passes et que tu tombes pour te
bah,
péter,
ouais, c'est bah, sympa. Complètement.
Tu m'avais pas parlé, ouais. T'avais pas parlé des serpents aussi.
Bah, les serpents, c'est un des dangers, je pense, les plus fréquents quand on campe et qu'on fait de la moto. Moi, j'en vois souvent sur la route, un peu au dernier moment. Il faut lever les bottes, lever les pieds. Les serpents, les araignées, ça, c'est traître. Hein, parce que si t'es au milieu de nulle part et que tu te fais piquer par une araignée, ça peut... Ouais. Enfin, mais ouais, on avait parlé de tout ça. Il y a plein de choses qui peuvent, en effet, te tuer volontairement ou pas en Australie. Mais quelques règles de base et de bon sens, tout va bien.
T'as une trousse de secours avec toi ?
Ouais, j'ai acheté des pansements l'autre jour.
Des pansements et du mercurochrome.
J'ai des pansements, un patch de crevaison, c'est bon.
Ouais. Parti. Dis donc, ce que tu...
Non, moi, c'est n'importe quoi. Hein. Faut pas faire ce que je fais.
Oui, ce que tu déclarais en disant j'ai fui l'idée d'une vie ordinaire. Là, effectivement, c'est que des occasions d'adrénaline. Ça...
Ouais, c'est un pays où il y a vraiment beaucoup d'extrêmes, beaucoup de déserts, beaucoup de rien, de grands espaces et de grands espaces. Et puis après, sur la côte, on a la mer, l'océan, on a les forêts. Enfin, c'est assez fantastique comme pays, mais c'est très extrême. Donc, si on veut vivre des aventures, et puis à deux roues en particulier, ouais, il y a de quoi faire. La preuve, ça fait 2 ans et demi que j'y suis, toujours pas fini. Hein.
Et dis-moi, Fanny, au niveau administratif, là, Fanette, excuse-moi. Au niveau administratif, tu fais comment pour rester 2 ans et demi en Australie? Je pensais que tu fais du PVT.
Alors,
explique-nous un petit peu.
C'est du PVT.
Ouais.
C'est du PVT.
Passeport, donc, vacances, travail, c'est ça?
C'est ça, permis, vacances, travail, working holiday. Et donc, si on travaille 3 mois la première année, on peut renouveler sa deuxième année. La deuxième année, si on travaille 6 mois, on peut renouveler la troisième année. Et après, ça s'arrête. Mm-hmm. Donc moi, techniquement, je devrais être en troisième année de visa.
Ouais.
Mais en ce moment, je suis sur un Covid visa. Il faut bien que
d'accord.
ça serve à quelque chose.
Donc
là,
tu es
merde, hein.
Malheureusement
donc,
prisonnière du Covid.
Voilà. Et bien heureusement pour eux, comme ils ont besoin de nous, ils ont besoin des travailleurs et que la moitié d'entre nous sont partis, ils nous incitent à rester en nous donnant des visas gratuits pendant un an.
D'accord.
Sinon, il y avait une autre solution, donc, c'était de te marier avec un Australien, je crois.
Ah oui, voilà. Mais je pense que Covid visa, c'est plus simple que ça encore. j'ai laissé tomber, hein, parce que c'est comme la faune ici, c'est tout veut te tuer.
C'est une faune aussi, c'est ça.
C'est cow-boy.
Bref, on va pas s'éloigner du sujet.
Revenons à la moto.
Bon, il doit y avoir des motards sympas quand même. T'as dû en croiser plein, des motards sympas australiens.
Ah bah il y en a plein, des motards sympas. Mais disons que, en fait, les personnes avec qui je roule le plus, qui me transmettent le plus, c'est avec qui ça se passe bien et qui a une bonne accroche, c'est des personnes de votre génération, donc c'est-à-dire des personnes de la génération
des vieux, quoi. Des vieux.
C'est des vieux, ouais, voilà. Mais ils sont cool, mais c'est des vieux cool.
Bon, on est content de savoir qu'on est cool déjà.
Mais disons juste que, c'est pas. Je vais pas mettre toutes mes billes sur le visa mari, hein, parce que.
Ok. T'as prévu de rester encore un moment alors?
Alors, oui et non, c'est-à-dire que je vais rentrer en France pour des raisons familiales et je vais repartir après. Après ça, je vais revenir ici parce que du coup, j'ai encore ma troisième année de visa qui m'attend.
D'accord.
Et puis, je terminerai mon voyage.
D'accord, faudra que tu viennes dans les studios, alors comme ça, on pourra faire un direct physique de façon à refaire un résumé de ton voyage.
Voilà. Je vous dirai comment j'ai survécu ou pas, du coup,
au crocodile,
je me dirige vers le nord. Je me dirige vers le nord bientôt, c'est là où il y a les crocs.
En attendant, Fanette, tu nous as vraiment donné envie d'avoir les images. Et donc, sur quel site on peut aller pour suivre tes aventures?
Alors, je suis sur Instagram et sur Facebook, sous le nom de Fanette Cyclette. Et puis, je partage en anglais toutes mes vidéos et toutes mes photos de tout ce que je fais et puis des gens que je rencontre sur la route et de ce que j'apprends. Et je montre beaucoup comment je me plante.
Et comment tu te relèves ?
Vous allez bientôt voir. Et comment je me relève ? Et j'ai beaucoup de commentaires sur ça aussi, ce qui peut être des fois un peu gênant. Mais on me fait beaucoup de commentaires sur comment je devrais soulever ma moto. Et je m'acharne à expliquer aux gens que s'il y a une chose que je sais faire avec ma moto, c'est comment la relever. C'est peut-être d'ailleurs la seule chose que je sais bien faire, c'est ça. Parce que je le fais beaucoup.
Est-ce que t'as un projet de bouquin, peut-être ? Parce qu'il y en a beaucoup qui... trois ans de voyage ou plus, même maintenant. Est-ce que tu compterais éventuellement écrire ?
C'est en cours.
Ah,
je suis en train
de
travailler sur ce projet. Ça fait 2 mois que j'ai commencé l'écriture, le projet d'écriture de mon voyage en Nouvelle-Zélande.
D'accord.
Et j'écris quand même régulièrement et je publie régulièrement sur un blog les textes de mon voyage ici en Australie.
D'accord.
Et ce blog, on peut le trouver sur Internet en tapant Fanette Cyclette.
D'accord.
Bah, faudra que tu viennes nous parler de ton livre alors quand il sera publié.
Ouais.
Ok, ça roule.
Ça, avec plaisir.
Bon, alors attention aux crocodiles, aux kangourous et aux serpents, hein. Ok.
Et aux requins.
Et aux requins en plus.
Je fais de la plongée demain, donc faire de la plongée, donc souhaitez-moi bonne chance parce que, autant j'ai pas peur de mourir en me plantant dans un arbre, autant finir en petit snack que d'un grand blanc moyen, pas chaude.
Bah bonne plongée,
ouais.
Hein.
Ouais, ok, ouais. Tu vas t'emmerder quand tu vas revenir en France, hein. Ça va être fade comme vie, franchement.
Ah, bah écoutez, c'est pas que j'y pense pas, mais ouais, j'ai un peu peur. Hein. Ouais. J'ai entendu parler du Trans-Euro Trail.
Ouais.
TET.
Ouais.
En France, en Europe.
Ouais.
Ça, c'est ma motivation. Voilà. Alors, quand je vais rentrer, vous pouvez commencer à chercher pour moi. Je suis à la recherche d'une Suzuki DRZ 400.
D'accord. Bah, on passera le message alors. Ok.
Cool. Merci.
Allez, à bientôt, Fanette.
Merci.
Ciao.
Fanette.
Salut et fais attention à toi.
Gros bisous.
Hein. Allez, ciao.
Bye.
Et vous êtes bien toujours sur Kick and Cool, le magazine de la moto, des motards et des motardes aussi, hein, papate. Donc nous allons revenir avec nos invités présents dans les studios qui vont nous parler de leur manifestation les 12 et 13 mars à Wattrelos. Wattrelos, hein, c'est ça ?
Ouais,
donc
c'est ça.
On a Patrick qui est le président de l'association, enfin c'est un motoclub en fait, hein, Amitié Motard.
Ouais, c'est ça.
Hein, c'est un motoclub, une association, ouais, quoi, loi 1901. Hein. Voilà. C'est il y a longtemps que tu es président ?
Depuis la création, donc en 2016.
Ah ouais, donc c'est un motoclub récent.
Ouais, c'est récent, mais je faisais déjà partie d'un autre club moto qui s'appelait à l'époque Wattrelos Moto Action. Ouais. Et ça, c'est, on a commencé en 93. En fait, on a créé ce club-là, ce premier club-là, quand on a passé nos permis moto en fait. Arrivé donc avec Philippe Espel, donc Philippe le papa de Marie.
Exactement.
Et le président de Élève ta voix.
Voilà. L'association Élève ta voix.
D'accord. Et donc Élève ta voix s'associe à Amitié Motard, ou c'est Amitié Motard qui s'associe avec Élève ta voix pour organiser cette manifestation du 12 et 13 mars ?
Mais je dirais pas que c'est une association, je pense qu'on a toujours été ensemble, on a toujours fait des trucs ensemble. C'est pas l'association, voilà. C'est une continuité de ce qu'on a toujours fait en fait.
D'accord.
Donc un week-end complet à la récolte de dons pour la recherche contre le cancer.
Voilà, c'est ça. C'est un truc qu'on avait déjà fait il y a 4 ans avec Eric Mirador, le sosie de Johnny Hallyday. Et on avait donc récolté des fonds pour l'association LARC. Et c'était quand même sympa, 6 300 € on avait gagné. Et donc c'était pas mal.
Oui, c'est vrai que c'est important. Donc, ouais. Donc c'était à l'image du succès que ça avait généré.
Ouais, c'était sympa. Ouais. En fait, on a fait ce truc-là aussi pour comme ça, vite fait, bien fait, 3 semaines, on avait monté le bazar et ça s'était fait comme ça, quoi, en fait.
Par contre, là, ça demande plus d'organisation, puisque vous avez 2 jours. Donc, il y a le premier jour, c'est le 12 mars, il y a Johnny qui est Mirador qui revient, hein, et on a Rick, comment on dit, Cavan ?
Rick Cavan, je pense, Cavan. Ça se dit comme ça. Ouais. Rick Cavan, qui est donc le sosie vocal de Elvis Presley. Un mec super sympa, d'ailleurs Rick aussi sympa. Et le lendemain, on fait donc une autre action, un peu plus de variété française.
Exactement.
Et c'est plus dans l'esprit de Marie. Donc
tout à fait, je serai sur scène.
Ah bah ouais, je vois, il y a Marie qui chante là avec un micro. Il y a Ellie, après j'ai du mal. Sandy, c'est ça ?
Sandy, oui.
Martin, Steve.
Steve Martin.
Steve Martin, ouais, j'arrivais pas.
Et on a aussi le sosie de Barry White, c'est ça ?
Barry White, ouais.
Barry White, carrément.
Et ce garçon, il vient de Hollande.
Ah ouais, donc ça demande du financement quand même, de faire venir des vedettes.
Et là, la chance, bon, c'est vrai que financièrement, ça, c'est assez vulnéreux quand même, mais on a la chance d'avoir des gens qui ont joué le jeu. Et je pense que le cancer, ça concerne tout le monde, et je pense qu'ils se sont sentis concernés sur la chose. Et ils ont fait des tarifs très attractifs. Et d'ailleurs, un grand merci à la ville de Waterloo, parce que sans leur aide, sans leur gratuité de salle, sans gratuité de matériel, tout ça, on aurait été incapable de pouvoir monter ce projet, quoi.
Donc c'est quoi ? C'est la salle Roger Salengro, ouais, c'est ça
oui.
Rue Émile Bally, à Waterloo, et donc elle vous est donnée gracieusement
par la ville.
Oui, ouais. Par la ville de
plus
Waterloo.
Le matériel qui va avec, j'imagine,
voilà.
La sono, tout ça.
Il y a une partie sono qu'on est obligé de régler, parce que c'est spécifique pour savoir qu'Éric Mirador, il vient avec son groupe musical, donc il vient avec des musiciens d'ailleurs qui n'ont joué que Johnny Hallyday, donc des pointures en guitare et compagnie, et c'est du live, quoi, c'est du direct, quoi.
Ouais, il a été guitariste de Johnny Hallyday de 81 à 85.
Ouais,
bah,
c'est quand même des gens.
Ils sont très talentueux, tous les deux. Et tous les participants, d'ailleurs.
Ouais. D'ailleurs, si vous pouvez avoir un aperçu sur le site d'Éric Mirador, hein, vous allez voir Éric Mirador, et il y a donc des vidéos sur les personnages et sur les scènes qu'ils ont réalisées. Hein, donc, c'est pas mal.
Et ce qui est important aussi à souligner, c'est que les prix d'entrée sont quand même très très raisonnables. Ça permet aux familles de pouvoir venir.
Le but, c'était de se faire plaisir en organisant. Le but, c'était de faire un truc caritatif avec le cancer. Et le truc, moi j'ai une opinion, c'est qu'on vit quand même dans un monde pas toujours facile pour tous. Et je pense que la variété, le loisir, c'est d'être accessible au maximum à tout le monde. Ouais. Et ce tarif-là, c'était important.
Donc on rappelle les tarifs, c'est 8 euros pour les plus de 16 ans.
Oui.
Et 4 euros pour les 12 à 16 ans.
C'est ça.
Donc les moins de 12 ans, c'est gratuit, quoi.
Ouais.
C'est ça ?
Ouais. Donc, ces tarifs-là, il va là pour le samedi et va là pour le dimanche. Hein. Donc c'est pas 8 euros pour les deux jours, c'est 8 euros pour le samedi et 8 euros pour le dimanche.
Alors il faut préciser que le samedi, c'est en soirée et le dimanche, ça démarre à partir de 11h.
Là, le 11h le matin, donc le premier spectacle, premier musicien, ça sera à partir de midi jusqu'à en fin de 17h30, 18h, on termine.
Et Marie, tu passes à quelle heure, toi ?
Bah écoutez, je ne sais pas encore forcément le
programme.
Faut pas le dire, Marie.
Ce
sera la surprise.
Dis-le pas, parce que trop lourd.
J'ai pas encore le programme sur les yeux, je ne sais pas.
T'as des compos ou tu fais des reprises ?
Alors, j'ai pas de compos, mais c'est un projet, justement, avec les enfants de Patrick, parce que voilà, on a toujours été enlevés ensemble. Mais c'est un projet. Ouais, je fais beaucoup de reprises, en fait.
Avec une interprétation parfois très personnelle, d'après ce qu'on a appris.
Le Papa Noël en rock.
Ah
c'est
oui,
ça
juste tout à l'heure.
Et tu fais aussi des chansons pour motards ou pas ? À part le petit Papa Noël en rock. Non ?
Ah, l'aigle dans le dos, là. Il nous l'a fait, ça.
Comment ?
Le remake de Brigitte Bardot.
Ouais.
T'es pas trop Harley.
si, mais ouais, non, ça dépend le style de musique, quoi.
T'as quoi comme moto, en fait ?
Alors moi, j'ai une CB500. Qui a mon âge. Elle est de 95. Et pour faire la petite histoire, en fait, j'ai caché à mon père que je passais mon permis. Et le jour où j'ai reçu mon résultat, que j'avais réussi, j'ai mis maman dans la confidence. Je lui ai dit, écoute, ce soir, papa, il va être content, je vais faire un apéro, je vais lui annoncer que j'ai mon permis. Il sera fier et tout. Et en fait... faut savoir que ce jour-là, ils étaient partis me chercher une moto, donc la CB500 de 95. Et il s'est assis, on a vu l'apéro, et j'ai dit, papa, j'ai quelque chose à t'annoncer. J'ai passé mon permis moto, j'ai réussi, je l'ai. Et là, il était dans sa poche, il m'a dit, ma fille, je suis contente, regarde ce que j'ai été chercher pour toi. Sans qu'on le sache tous les deux, et c'était tellement chouette. Oh
c'est trop.
Et du coup, cette moto, elle est géniale, et franchement, mon père, il m'aide beaucoup sur les choix et puis il m'a dit tu verras, tu vas te faire la main avec ça et franchement c'est trop chouette de rouler avec ça.
Bah, c'était une moto-école hein,
ouais.
À l'époque.
Elle est
adaptée on va dire à des jeunes débutants ou même à des vieux briscards, tu peux t'amuser aussi avec.
Et moi elle me faisait beaucoup rêver. Je passais des dimanches matins à aller la regarder en vitrine.
Et toi Patrick par contre c'est un truc un peu plus gros, un modèle alors un peu plus gros je crois.
Moi j'ai deux modèles en fait, j'ai un FJR 1300. Que je sers pour aller travailler parce que je roule toute l'année. Et je me suis fait un petit caprice de vieux, on va dire ça. Je me suis acheté une Indian, c'est une chef vintage.
Ah ouais, c'est une belle bête hein, déjà.
Ouais.
C'est quoi, c'est un 1800 je crois.
C'est un 1800 centimètres
cubes. Ah bah ouais quand même. Et dans le club, vous avez tout type de machines, j'imagine.
Oui, on a des 125, il y a des 500, il y a des Harley, il y a des Suzuki. En fait, pour moi, l'esprit motard, c'est la moto, c'est pas spécialement la marque. La marque, c'est simplement... Ça fait partie des passions. Il y en a qui sont des passions de Harley, il y en a qui sont des passions d'Indian, il y en a qui sont des passions de BM. Moi, j'ai la passion motard et c'est tout. Ce que j'ose et ce que j'aime, c'est les motards. Quoi. C'est tout. Pas...
Et au-delà de l'événement de la mi-mars, comment peut-on vous rejoindre au motoclub?
Ben, vous allez sur le site Amitié Motard sur Facebook. Et autrement, vous pouvez vous nous joindre à Waterloo si vous êtes habité pas trop loin du coin. Quoi. C'est, Waterloo, c'est le quartier du Saint-Pavé. On est assez connu, donc il n'y a pas de souci. Mais autrement, vous avez tous les coordonnées sur Facebook, Amitié Motard. Vous avez tous,
Je pense que sur les affiches, il y a les numéros de téléphone aussi.
C'est ouvert, il y a une permanence en
Alors, on a une permanence tous les semaines, de 19h jusqu'à 21h, plus si affinité.
Le vendredi.
Et ça nous arrive de faire le samedi, qu'on fait des événements. Et ensuite, on s'est. Comme quoi, je suis assez ouvert d'esprit. Je pense que la moto, c'est ma passion, mais ma passion aussi, c'est les gens. Et on s'est adjoint à un club de country, donc ils travaillent à côté de avec nous. Donc, on est toujours dans le monde américain, en fait, presque. Et ils font de la country le dimanche matin.
Et vous organisez des événements tout au long de l'année?
Ouais, c'est bon, toute l'année. Donc, à Saint-Patrick, on fait un truc super sympa. On est un club, et Philippe et moi, on a toujours été comme ça. On a toujours partagé avec les autres, et on fait toujours avec la complicité de la ville de Waterloo, bien sûr, et avec Lorraine, parce qu'elle est financière, pas financière, mais surtout matérielle et compagnie. On fait ce qu'on appelle les marchés de Noël, au mois de décembre. Et notre rôle à nous, c'est d'animer le marché de Noël avec nos figurines, donc des mascottes, de machin. On s'est fait aider il y a 2 ans et cette année aussi de jeunes filles qui font des études et on les a déguisées en princesses parce que nos princesses à nous ont le même âge que nous donc la belle et la bête
c'est
et
les mêmes princesses
la belle et la bête et Blanche-Neige, ça s'entend, ça se fait plus trop quoi.
Mais... vous faites des balades aussi quand même en moto.
On fait des balades en moto, alors ce qu'on... Bah, moi j'ai eu la chance et la possibilité de le faire, je suis allé aux États-Unis, je suis allé en Écosse, je suis allé en Portugal, Espagne, j'ai fait quand même pas mal de voyages, jamais assez, j'en voudrais faire encore plus, et financièrement ça a un coût, et je travaille encore, donc c'est pas... Autrement, je fais souvent la petite balade du dimanche matin, on s'en va à 10h, on revient à 13h, on s'en va la journée quand il fait beau et que... on voyage quand même, on fait des sorties.
Des week-ends aussi parfois, des week-ends, week-end. Ouais.
On s'est approprié la grande vadrouille, on s'est fait un petit week-end à la française et des trucs comme ça. Quoi.
Oh, c'est génial. De quoi motiver à vous rejoindre alors.
Ouais.
Mais la Saint-Patrick, alors c'est vous, parce que moi j'ai vu une super affiche. Je me suis dit, au niveau du menu, c'est trop top.
On a vendu des recettes irlandaises qui n'existent pas en Irlande, mais on se les fait nous-mêmes.
J'ai trouvé que ça faisait très irlandais. C'était très motivant.
Il y a des riches coffee, c'est ça?
Non, les choses à manger, je me souviens plus précisément, mais quand j'ai lu, j'ai dit, waouh, trop bien.
Ouais, c'est de la crêpe au saumon, de la crêpe au poulet, je ne sais plus quoi.
Oui, je crois qu'il y a de crêpe, et puis après, il y avait un truc trop bien, mais de mémoire, je ne sais plus.
Tu parlais peut-être du cocktail, peut-être?
Non.
Il y a le cocktail Ligarnet, peut-être?
Moi, c'est beaucoup mangé. Hein.
Ces infos, on les retrouve sur Facebook, donc c'est ça?
Oui, et on va relayer la Saint-Patrick aussi, alors là, c'est sûr.
Oui, c'est ici chez nous aussi.
On tape Amitié Motard sur Facebook et on tombe sur l'ensemble des manifestations que vous proposez.
Tout ce qu'on fait en cours de l'année, bon, il y a un historique, hein, je veux dire, il suffit de fouiller un peu le site, et ce qu'on prévoit de faire prochainement, quoi.
Donc si vous êtes ouvert à tous les motards, l'année prochaine, il faudra que tu nous donnes les infos, on les mettra dans le calendrier qui va.
Oui, sans problème, j'avoue.
D'accord.
Pas de problème.
En plus, c'est gratuit, c'est offert et c'est distribué à tout le monde. On va passer un petit morceau de musique?
Yes.
Vous restez avec nous? voit qu'on arrive à la fin de l'émission. T'as vu, la musique s'accélère, hein, ça s'énerve. Papate. Bon bah voilà, on arrive à la fin de cette émission. On a bien voyagé encore, hein.
Ah, c'était super cool.
Hein, on s'est bien baladé, c'était vraiment sympa. Donc moi, je voudrais remercier nos invités. Donc Patrick, le président des Amitiés Motards.
Merci surtout à vous de la communication et de votre accueil, c'était sympa. Merci.
Ouais, c'était cool, donc là, tu vas nous donner les infos l'année prochaine pour qu'on le mette dans le calendrier.
J'y manquerai pas.
Marie, hein, la vice-présidente de Élève ta voix.
Merci beaucoup.
Je vous l'ai dit qu'elle avait fait The Voice, ouais, je vous l'ai dit déjà. et motarde donc. Il y a sa maman qui est là, mais qui Claudine, mais qui n'a pas secrétaire de l'association, mais qui n'a pas voulu parler parce qu'elle est un petit peu timide, on m'a dit, c'est ça?
Exactement. Elle est timide, mais c'est surtout.
Et surtout qu'il n'y a plus de micro.
Oui, voilà, exactement. Et je fais aussi un petit coucou à mon papa qui est président de l'association et qui n'a pas pu être présent aujourd'hui, mais on lui fait plein de gros bisous.
Oui, et qui n'a pas relayé une info d'importance à. Actuellement, on s'est mis dans les conditions de l'hivernale pour faire l'enregistrement de la radio, parce qu'on a peur de rien. Mais moi, je lui avais passé le message comme quoi il fallait quand même venir couvert.
Il n'a pas dit aux femmes de la famille, elles ont un peu froid,
vraiment,
c'est ça.
Vraiment remercier.
C'est des motards, allez, c'est bon. Ouais, désolé, hein. On a des couvertures. Merci Yanis pour ton témoignage de chercheur en géographie spécialisé dans les hivernales.
Ben merci à tous, merci de m'avoir reçu. Voilà, c'est toujours un plaisir de parler à la radio, j'aime ça.
Aurélien.
Oh, Quentin,
excuse-moi. Quentin. Bon, t'as pas laissé beaucoup de temps cette fois-ci, mais tu te rattraperas la fois prochaine.
Non, mais l'entretien avec Fanette, c'était sympa. Comme moi aussi, je voyageais à moto, je trouvais que c'était super.
Avec des crocodiles et des migales. Non, c'est plus vers le nord, toi.
Plus, ouais. Les animaux sauvages en moi, c'est bien.
Papate, parle dans le micro. Merci, Papate, pour ton émission. C'était sympa.
Oui.
On
oui.
a passé un bon moment.
Oui. Je me suis mise en défaut, d'accord.
Il y a le générique là. Merci Laurent pour cette programmation musicale de qualité et on vous dit à dimanche prochain.
Et bon dimanche.
Allez, ciao. Salut.